L'homme de demain sera hors norme, chantait le regretté Alain Bashung. Il y a 300 000 ans, le premier Homo sapiens était petit, poilu, vraisemblablement avec la peau noire, mais un visage assez peu différent du nôtre. Il aurait pu prendre le métro en passant presque inaperçu. Depuis, il a grandi, son cerveau s'est développé, son espérance de vie a largement augmenté. Et tout ça s'est passé au cours d'une évolution lente et plutôt naturelle, longue de milliers d'années, évidemment liée au progrès de la recherche, de la médecine et aussi au mode de vie. Mais y a-t-il une limite? L'humain va-t-il continuer à grandir sans cesse, à repousser constamment l'âge de sa mort? Dans 1000 ans, est-ce qu'on atteindra les 2,30 m avec une espérance de vie de 140 ans? L'humain de demain sera-t-il encore un humain? C'est notre vaste menu aujourd'hui.
Thomas Chauvineau, le débat de midi sur France Inter.
Avec quatre invités pour en parler jusqu'à 13h. Alain Froment, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes anthropologue au Musée de l'Homme. Emmanuel Perret-Gauvin, bonjour.
Bonjour.
Porte-parole de l'association française transhumaniste. Éric Fourneret, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes en direct de Grenoble grâce aux techniciens de France Bleu Isère. Merci à eux d'ailleurs. Vous êtes philosophe et vous travaillez évidemment sur cette question de l'humain de demain. Et Judith Nico-Gossian, bonjour. Vous êtes avec
bonjour.
Nous. Bonjour. Vous êtes docteur en anthropobiologie. Merci à tous les quatre d'être là aujourd'hui. Mais comme chaque début de débat de midi, j'accueille un confrère de la presse écrite pour raconter ce qui fait débat dans ces pages. Et c'est vous, Yves Tréhard. Bonjour.
Bonjour Thomas. Bonjour.
Directeur adjoint de la rédaction du Figaro. Et vous revenez dans vos pages, c'est la une du journal d'ailleurs hein, d'aujourd'hui, sur le fameux Spoutnik, le vaccin russe déjà très controversé.
Oui, effectivement. Alors, vous, ça rejoint un petit peu le thème de votre émission sur les hommes de demain. Hors norme, bah, Vladimir Poutine est hors norme. C'est un dirigeant hors norme en tous les cas. Et lui, il a décidé de prendre tout le monde de vitesse et puis de lancer effectivement ce vaccin. Alors, il l'a fait administrer à sa fille qui s'est inoculée. Et ce vaccin anti-Covid, eh bien, elle a pas de, je dirais, d'effets négatifs. Donc voilà, et à partir du mois de septembre, les enseignants, le personnel médical en Russie se verra administrer ce vaccin, et en janvier 2021, donc, eh bien, toute la population.
Et ce qui est curieux, c'est qu'il n'y a eu aucun résultat d'essai clinique qui n'a été dévoilé pour l'instant.
Alors, évidemment, c'est ça qui fait effectivement débat et qui suscite la critique dans le monde entier, enfin, y compris dans des pays où eh bien, on est en retard dans la recherche. Évidemment, il y a trois phases pour tester un vaccin, pour le mettre au point en tous les cas. Et là, il semblerait que le vaccin Spoutnik V soit et respecter les deux premières phases, mais pas la troisième phase, qui est tout à fait importante, savoir si sur une cohorte de personnes, ce vaccin répond à toutes les nécessités et toutes les exigences scientifiques et médicales.
Et là, l'innocuité, évidemment, du produit.
A sauté cette étape.
Il l'a sauté, pour l'instant, il l'a annoncé en ayant sauté cette étape, mais cette étape est en cours. Mais cela dit, ce n'est pas le seul vaccin au monde, hein. Il y a 6 autres vaccins qui sont également dans cette phase 3.
Oui, alors effectivement, il y a 6 candidats vaccins. Il y a un Anglais, un Américain, un Chinois, un Franco-Allemand. Et ce sont des vaccins qui normalement devraient, on devrait avoir les résultats de savoir si on peut les mettre et les commercialiser et les mettre sur le marché d'ici à plusieurs mois. En gros, si vous voulez, c'est qu'aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que c'est une espèce de nouvelle guerre froide qui est livrée sur le terrain du soft power entre la Russie, les États-Unis, l'Europe. Et probablement la Chine, c'est à celui qui le premier arrivera sur le marché avec un vaccin, et c'est Vladimir Poutine qui entend arriver le premier. C'est une façon de montrer que la Russie est encore une grande puissance, ce qui est vrai d'ailleurs sur le plan scientifique. Il y a des chercheurs de première qualité. Alors évidemment, on peut critiquer, on peut dire Poutine gonfle les muscles comme on a l'habitude de le voir. Simplement, il faut espérer évidemment que ce vaccin soit de qualité pourquoi pas qu'il soit russe ou d'une autre nationalité, peu importe. Ce qui compte, c'est que on trouve un vaccin pour essayer de mettre fin, ou en tous les cas de trouver une solution à cette pandémie qui fait des morts et qui évidemment a des effets tout à fait dommageables pour la marche du monde.
Vous évoquez à l'instant, Yves Tréhard, la guerre froide. On peut s'interroger sur le nom de ce vaccin, Spoutnik, en référence évidemment au premier satellite envoyé dans l'espace dans les années 50.
Bah évidemment, ça rappelle la guerre et la concurrence, la compétition pour la conquête de l'espace entre les États-Unis et la Russie et l'Union soviétique. Alors l'Union soviétique avait pris une longueur d'avance avec Spoutnik. Effectivement, c'était un satellite qui avait été lancé à la fin des années 50. Mais dans la conquête de l'espace, finalement, les soviétiques ont perdu la course et n'ont jamais réussi à mettre le pied sur la Lune, alors que les Américains, on se souvient, en juillet 1969, eh bien, avaient été les premiers à mettre le pied sur la Lune. Donc, je dirais qu'il y a beaucoup de ressemblances dans cette compétition.
Oui, enfin, on passe de l'infiniment grand à l'infiniment petit, là.
Oui, exactement. Simplement, il faut faire attention parce que ce sont des populations et des milliards d'individus qui sont exposés. Et il faudrait pas que un vaccin soit lancé sur les marchés et que ce vaccin se révèle inefficace, voire dangereux, parce que c'est aussi toute la problématique.
Merci Yves Tréhard. Donc ce dossier sur le vaccin Spoutnik est à retrouver dans le Figaro de ce mardi 12 août. À quoi ressemblera l'humain de demain? C'est la question qu'on se pose aujourd'hui dans le débat de midi, avec vous aussi jusqu'à 13h. Intervenez sur le site ou sur l'appli de France Inter.
L'autoroute blanche, les gens. La piscine le dimanche, les gens. Le Mont Saint-Michel, les gens. L'heure de pointe, les gens.
C'est un duo, Cyril et Cyril, et ils chantent Les gens. Maude Butler a préparé cette émission, Lucie Lemarchand la réalise, et toute l'équipe du débat de midi vous souhaite une excellente journée, à l'écoute évidemment de France Inter.
France Inter. Thomas Chauvineau. Le débat de midi.
À quoi ressemblerons-nous dans un siècle ou dans 1000 ans? C'est la question qu'on se pose aujourd'hui dans le débat de midi. Et ces messages qui commencent à nous arriver sur le site de France Inter. Michel, très en forme avec un petit jeu de mots. Le pire serait que l'homme de demain ne soit qu'un homme demain. Demain en deux mots, évidemment. Marc, l'homme augmenté est encore très loin. Seules les réparations d'organes ont été démontrées. Jamais une amélioration de l'existant a été prouvée. Seuls les très riches pourraient en bénéficier, d'où une humanité à deux vitesses, demande Marc. Et puis Bernard qui nous dit « On parle d'intelligence artificielle, c'est-à-dire des robots ayant des capacités d'analyse, mais on devrait peut-être plutôt parler d'hommes artificiels. Serons-nous encore capables de survivre sans nos aides technologiques ?» Alain Froment, vous êtes anthropologue. Pour comprendre l'homme de demain, c'est intéressant d'abord de s'intéresser à l'homme du passé.
Bien sûr, l'homme de demain va furieusement ressembler à l'homme d'aujourd'hui parce que, vous l'avez rappelé, notre espèce qui s'appelle Homo sapiens, elle a 300 000 ans. Il n'y a pas eu beaucoup d'évolution physique depuis ce temps-là. En gros, une espèce de mammifère, ça dure à peu près 1 million d'années. Ça vous donne un petit peu l'idée. Donc, il y a 1 million d'années, c'était l'Homo erectus. Il avait un cerveau un petit peu moins performant. Mais depuis 30-40 000 ans, depuis l'homme de Cro-Magnon, on est vraiment les mêmes. Alors, il y a des phénomènes qu'on appelle la microévolution, qui sont à l'échelle du siècle, c'est pour ça qu'on les appelle séculaires, comme des variations de taille, des variations de poids, des petits détails. Et c'est vrai que depuis une centaine d'années, on a gagné 10 à 15 centimètres. Les conditions de vie se sont améliorées. Le brassage génétique a eu sa part aussi. Mais ça, ce sont des petits détails, parce que notre espèce, elle est très homogène génétiquement, et il ne faut pas attendre des bouleversements dans les 1000 ans qui viennent.
Ce que j'ai découvert en travaillant sur cette émission, qui m'a assez fasciné, je dois vous l'avouer, c'est ce que les anatomistes appellent une structure vestigiale, c'est-à-dire les restes de ce que nous avons perdu au fur et à mesure de l'évolution. Par exemple, le coccyx, ce serait sûrement le reste d'une queue dont on se servait, dont les hommes, les ancêtres des hommes se servaient.
Oui, nous sommes des primates, donc il y a des primates avec queue, comme les petits singes, et puis les grands singes, nos cousins les plus directs, comme les gorilles, les chimpanzés, les orang-outans, ont perdu leur queue, donc le sacrum qui est prolongé par ce coccyx en est un vestige, mais qui est quand même utile, hein, puisque c'est l'insertion d'un certain nombre de muscles. Le plus classique des exemples de structures vestigiales, ce sont les muscles auriculaires. Il y a quelques personnes qui sont capables de bouger leurs oreilles. La plupart d'entre nous ont perdu cette faculté.
C'est ce qu'on appelle le tubercule de Darwin, hein, c'est cela?
Non, c'est autre chose. Le tubercule de Darwin, c'est une petite pointe sur le cartilage, là, mais qui évoque aussi...
Qui permet de replier l'oreille pour protéger le conduit auditif, un peu comme le chat le fait.
Voilà, nos oreilles autrefois étaient mobiles.
Moi, je trouve ça fascinant d'imaginer ça. Judith Nicogossian, vous êtes docteur en anthropobiologie, vous êtes aussi sociolinguiste, et depuis les années 1900, on vient de le dire avec Alain Froment, l'homme a pris 30 ans d'espérance de vie, ce qui est assez considérable, en à peine un siècle.
Oui, effectivement, au XXe siècle, XXIe siècle, ce passage a vu voir un progrès frappant qui a rassemblé les conditions d'augmenter la longévité de l'humain dans de nombreux domaines en santé. Alors c'est l'ère de la sémiologie, du classement des maladies, mais aussi on a fait un progrès considérable en termes de chirurgie et grâce à toutes les découvertes par sérépendité, découvertes de l'anesthésie, des rhésus positifs, négatifs, et puis de l'émergence d'Internet, des one fits all de l'industrie pharmaceutique, ces antibiotiques qui ont été utilisés et qui ont permis de minimiser en fait les conditions létales et de mort. Donc on a vu cette longévité augmenter considérablement au cours du XXe siècle.
Et est-ce que cette longévité va continuer d'augmenter au cours du XXIe siècle? Difficile à dire, évidemment.
C'est très difficile à dire. Ici, des mythologies bibliques parlent de Mathusalem, ou alors si des espoirs idéologiques aujourd'hui encore portent un regard sur le fait qu'on puisse augmenter toujours cette longévité, dans les faits, on pense l'avoir atteint et avoir aussi peut-être atteint déjà les conditions maximum de vie.
Éric Fourneret,
de notre espèce.
Éric Fourneret, vous êtes donc en duplex depuis France Bleu Grenoble. Vous travaillez évidemment sur ces questions. Vous êtes philosophe. Vous travaillez sur ces questions de l'homme de demain. Mais vous nous dites, finalement, ça plombe un peu l'émission d'entrée parce que on a toutes nos chances de se planter si on commence aujourd'hui à imaginer dans 100 ans ce que sera l'homme.
Oui, bien sûr, parce que quand on a imaginé le futur, avant, on s'est rendu compte que le futur n'a jamais ressemblé à ce qu'on a pensé. Au milieu du XXe siècle, en 1950, on imaginait que le moyen de locomotion le plus populaire, ce serait la voiture volante. Et dans les années 2000, un des moyens le plus populaire, c'est la trottinette. Donc, on voit bien que le futur ressemble assez rarement à celui qu'on a imaginé. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas entrevoir dès aujourd'hui des problèmes qui pourraient se poser plus tard. On l'a notamment avec les conséquences de l'industrialisation des sociétés humaines, avec le réchauffement climatique. Aujourd'hui, on sait que dans 100 ans, au niveau de la climatologie, ça va être très compliqué pour les sociétés humaines. Donc on a quand même des indices. Mais dire exactement à quoi ressemblera le futur, c'est quand même très compliqué et personne ne peut vraiment prétendre y parvenir.
Qu'est-ce qui pousse un philosophe à s'intéresser à ces questions qui sont plutôt finalement des questions d'ordre anthropologique ?
Pas qu'anthropologique, ce sont des questions philosophiques que la philosophie se pose depuis très longtemps. Enfin, tout ce débat tourne finalement autour peut-être de deux questions traditionnelles en philosophie qui nous reviennent depuis de l'Antiquité. C'est la question de savoir qu'est-ce que l'homme, savoir qu'est-ce qu'une vie bonne aussi. Et ça, on voit bien que l'Antiquité se posait déjà cette question-là. En revanche, les réponses à ces questions ont énormément évolué au cours du temps et c'est ça qui est intéressant pour un philosophe, c'est cette multiplicité de réponses qui sont contradictoires parfois les unes par rapport aux autres, qui est très intéressant pour la réflexion philosophique.
Emmanuel Perret-Gauvin, vous êtes donc porte-parole de l'association française transhumaniste. Alors jusque aux années 1980, on peut dire que l'homme a évolué dans son coin en fonction de son mode de vie, des progrès médicaux. Et puis à partir des années 1980, naît véritablement le courant transhumaniste, même si on avait commencé à le voir un petit peu, être élaboré un petit peu au préalable. Mais il naît vraiment dans les années 1980 avec l'idée de modifier l'homme pour l'améliorer.
C'est vrai, on peut dater ça aux années 80 aux États-Unis. Mais si on prend le temps long, on peut voir des proto-transhumanistes, même à la Renaissance. Pic de la Mirandole, par exemple, avait pour principe, disons, de considérer l'homme comme doté de libre arbitre et par rapport aux animaux, et pouvait du coup décider de son destin. Et quelque part, comme vous parliez de la Bible tout à l'heure, mais le champ des possibles était plus grand dans le passé. C'est-à-dire qu'on pensait qu'effectivement il y a des gens qui, il y avait des légendes qui circulaient. Est-ce qu'il y a des gens qui vivent 800 ans? Est-ce qu'il y a bien la source de jouvence quelque part? Il y avait des expéditions très sérieuses pour trouver la source de jouvence à la Renaissance. Et c'est finalement à partir du 18e, 19e siècle qu'on a compris que le monde était plus limité que ça, et que finalement on a perdu un peu cet espace d'imagination qu'on avait. Mais il y a vraiment le transhumanisme est assez ancien.
Mais il y a une vraie différence entre améliorer l'homme et vouloir le soigner. Il y a une différence entre un vaccin, puisqu'on parlait tout à l'heure des vaccins avec le fameux Spoutnik, et puis transformer véritablement l'homme. Qu'est-ce qu'en pense le philosophe Éric Fourneret ?
Il en pense que les choses sont pas aussi bien tranchées que vous le pensez, c'est-à-dire que le vaccin reste une amélioration.
Je ne pense rien, je pose la question, hein, c'est tout.
Et moi j'y réponds de la meilleure façon que je peux. Non, mais ce que je veux dire, c'est que le vaccin est une forme d'amélioration, c'est-à-dire que le corps humain n'est pas à une capacité immunitaire, mais on va renforcer cette capacité immunitaire pour se défendre contre des agressions extérieures, des maladies qui viennent de l'extérieur. Donc c'est une forme d'amélioration. L'amélioration, c'est pas un gros mot hein, en soi. Quand on essaie de trouver la meilleure éducation à nos enfants, c'est évidemment pour qu'ils s'améliorent. C'est ce que Condorcet, on parlait de ses origines historiques du transhumanisme, Condorcet, qui est peut-être un des premiers transhumanistes de l'histoire, appelle la perfectibilité humaine. Donc, que l'humain s'améliore, c'est pas un problème. La difficulté, elle est dans les moyens que l'on va développer pour favoriser cette amélioration. Et ces moyens-là sont, pour certains, c'est-à-dire les conséquences, ne sont pas toujours très bien connues. Et donc, ça pose une question éthique, c'est s'il y a des bienfaits aujourd'hui, nous ne sommes pas à l'abri que ces bienfaits se transforment en gros problèmes pour les sociétés humaines, pour les futures générations.
Mais prenons un cas précis.
Un cas précis, c'est le cas de l'événement de la Covid-19 que nous vivons aujourd'hui. C'est-à-dire que nous avons mis la santé comme une valeur absolue avec le confinement, et c'était nécessaire de le faire, mais on voit bien qu'il y a des conséquences économiques pour les générations futures, et déjà même pour les générations présentes aujourd'hui. Donc on voit bien que en fonction de ce que l'on développe, de ce que les orientations que l'on donne à la société, on privilégie des valeurs sur d'autres valeurs. La question, c'est que ces valeurs qu'on privilégie aujourd'hui sont peut-être pas adaptés ou ne seraient peut-être pas adaptés pour les futures générations. La santé comme une valeur devient un problème si, pour préserver cette valeur aujourd'hui, on crée des situations économiques difficiles pour les générations futures.
Judith Nicogossian.
Oui, effectivement, ce progrès là en santé, donc notamment par rapport à la politique vaccinale qui a permis l'éradication de maladies, hein. Rappelons que l'OMS en 1977 a annoncé la variole éradiquée. Ouais. Et ça c'est un progrès considérable quand on sait que ces virus-là tuaient un tiers de la population mondiale, un quart de la population mondiale, la grippe espagnole. En comparaison à la Première Guerre mondiale qui n'a fait que 40 millions de morts, avait tué un tiers de la population mondiale, un demi-milliard d'habitants. Et donc, il y a eu cette politique vaccinale qui s'est mise en place grâce à ce progrès, par exemple, vis-à-vis des vaccins qui ont été trouvés, qui ont été appliqués. Mais aujourd'hui, on réalise que peut-être, à l'horizon 2050, les effets secondaires de ces politiques de vaccins vont générer certains dommages, et on recherche toujours comme ça de nouveaux vaccins qui vont nous permettre d'avancer, parce qu'il y a des fléaux qui disparaissent ou qui diminuent, mais il y en a d'autres qui apparaissent. Et c'est un monde en perpétuel changement par rapport à la réorganisation du vivant, dont on n'a jamais de leçons statiques. Donc c'est ce qui représente la difficulté, mais aussi la beauté en fait de l'évolution de notre humanité.
Alain Froment. Alors, je vois sourire à la beauté de l'évolution de l'humanité. Vous qui êtes anthropologue, on peut l'imaginer.
C'est magnifique. Alors, il faut voir qu'en fait, chaque espèce a ses limites physiologiques. L'économiste Keynes disait que les arbres ne montent jamais jusqu'au ciel. Donc, tel arbre mesure à tant de mètres, eh bien, l'homme, il va mesurer environ 1m80, plus ou moins, et il va vivre environ 100 ans. Ça, c'est un petit peu l'idéal. Le but de la médecine, c'est de faire en sorte que les hommes meurent de leur belle mort, en quelque sorte, de vieillesse. Et le but du transhumanisme, pour moi, c'est de repousser les limites, en fait. C'est de faire que on aille au-delà des capacités physiologiques qui nous définissent. Mais en matière de longévité, le gain n'a pas été si énorme, en fait, parce que nous sommes vraiment faits pour vivre 100 ans. Et si la moyenne d'espérance de vie a beaucoup augmenté, c'est surtout en raison de la baisse de la mortalité infantile, plus que d'un véritable gain. C'est-à-dire que la mortalité infantile s'est vraiment effondrée, en tout cas dans les pays du Nord, et donc arithmétiquement, l'espérance de vie s'est allongée. Mais le but de la médecine, c'est donc de nous préserver des accidents de la vie, que ce soit un cancer, une maladie infectieuse, etc. Et donc, c'est déjà un idéal qui est à notre portée.
Sur Twitter, hashtag débat de midi, ces messages qui nous arrivent, moins optimistes que le vôtre, Alain Froment. Dans 100 ans, nous dit Rivax, on sera tous morts, à part peut-être quelques milliardaires qui auront réussi à vaincre la mort pour pouvoir exploiter le reste de l'humanité pour l'éternité. Comment croire que la technologie va tout améliorer alors qu'elle a causé la crise écologique? Et puis François, toujours sur le Twitter, hashtag le débat de midi, nous dit, l'humain de demain, il aura surtout chaud, comme tout le reste vivant sur la planète d'ailleurs. À quoi ressemblera l'humain de demain, justement? C'est la question qu'on se pose avec vous aussi. Intervenez sur le site ou l'appli de France Inter. Et bienvenue si vous nous rejoignez. Caboula, ça veut dire fauteur de troubles en espagnol. Nante, c'est le titre. Il est gorgé de soleil. Excellent été à vous.
Le débat de midi. Sur France Inter.
Et sur franceinter.fr, Louise nous écrit, elle nous dit « Bonjour France Inter, je m'appelle Louise, j'ai 12 ans. Je pense que l'humain de demain n'aura plus de poils aux jambes, aux bras, ni de moustaches et de cheveux, puisqu'ils sont là pour nous protéger du froid. Et pour répondre à ce besoin, nous avons inventé les vêtements. Et pour nous protéger du soleil, nous avons inventé les chapeaux ainsi que la crème solaire. Je pense que les poils inutiles disparaîtront. » Alain Froment, vous êtes anthropologue. Est-ce que, c'est vrai que l'homme préhistorique, on l'imagine plus poilu que l'homme du 21e siècle?
Oui, mais on a tort.
Louise a raison.
On a tort. On a perdu notre fourrure il y a déjà 2 millions d'années. Par contre, nos poils, nous les avons toujours. On en a autant qu'un chimpanzé, mais ils sont très fins. Et ils ne nous servent plus pour nous protéger du froid. D'ailleurs, nous sommes une espèce tropicale, donc qu'est-ce qu'on en ferait? Mais ils peuvent avoir d'autres intérêts, y compris pour traduire des émotions, comme dans la chair de poule, vous voyez. Mais ça n'est plus une adaptation biologique, c'est simplement justement un reliquat de l'évolution.
Bien voilà, Louise, tu as la réponse à ta question. 4 invités aujourd'hui pour nous demander dans ce débat de midi à quoi ressemblera l'homme de demain. Donc Alain Froment que vous venez d'entendre, qui est anthropologue, Emmanuel Pérégovin, qui est porte-parole de l'association française transhumaniste, Éric Fourneret, qui est philosophe, et Judith Nicogossian, qui est docteur en anthropobiologie. Éric Fourneret, vous nous dites que quand l'homme invente, c'est toujours pour se protéger. En fait, que l'humanité ne cherche qu'une chose, c'est repousser sa vulnérabilité.
Oui, absolument. Et c'est ce qu'on entend dans la réflexion de Louise, qui est très heideggerienne d'une certaine façon. C'est-à-dire que l'homme est une espèce technicienne et que pour subvenir à ses besoins élémentaires et d'autres qui le sont beaucoup moins, l'homme n'a eu de cesse d'aménager son environnement, c'est-à-dire de domestiquer son environnement et lui-même pour subvenir à ses besoins. Autrement dit, l'homme est une espèce technicienne. Il n'est pas la seule, évidemment, mais il est une espèce technicienne à un degré de complexité extraordinaire. Extraordinaire, non pas au sens, c'est super. C'est génial, mais extraordinaire, c'était ce qu'on vous parlait de hors norme, c'est-à-dire qu'il est capable d'essayer de maîtriser la nature le plus possible. Et tout cela pour aménager son environnement qui est très hostile finalement, parce que l'homme est dépourvu de beaucoup de choses par rapport à d'autres animaux, et donc il utilise sa raison, il essaie de comprendre les lois de la nature pour s'en servir, pour se protéger. Et finalement, dans Louise, elle parle des vêtements. L'homme a inventé des vêtements. On a inventé tout plein d'outils qui nous permettent, eh bien, de durer dans le temps. Et quelque part, eh bien, la question, c'est par rapport au transhumanisme, elle est une des questions est celle-ci, c'est de savoir est-ce que le transhumanisme n'est qu'une la logique de l'évolution, de la coévolution de l'humanité avec les technologies, ou au contraire, c'est une rupture, c'est-à-dire qu'on fait une cassure dans l'évolution de l'humanité à un point tel que finalement il y aurait une humanité comme on a connu et une autre humanité, voire une humanité qui s'écrirait au pluriel. Et c'est ça qui est extrêmement intéressant dans la question. Et pour faire un rebond sur ce que vous avez dit tout à l'heure par rapport aux inégalités entre les riches et les pauvres, les riches qui pourraient
ce que disait un auditeur de France Inter.
Voilà, donc les riches qui pourraient acquérir ces technologies qui leur permettraient de vivre plus longtemps et en meilleure santé que d'autres qui n'auraient pas les moyens. Malheureusement, c'est qu'on dépeint là une réalité qui est déjà celle des inégalités. Les inégalités existent déjà. Le grand défi éthique est de faire en sorte que ces inégalités ne sont pas une justification d'une hiérarchie de valeurs entre les individus. Et c'est ça, le grand défi.
Avec le transhumanisme, on va au-delà de la simple vulnérabilité, puisque la finalité du transhumanisme, Emmanuel Pérégovin, vous êtes porte-parole de l'association française transhumaniste, c'est d'aller, de vaincre la mort finalement, de repousser sans cesse cette inéluctabilité de l'être humain.
Non, disons de manière générale, c'est d'améliorer les conditions de vie. Ça peut être des choses très différentes, en fait. Puis avoir, on travaille sur l'automatisation pour nous libérer du travail contraint. Il y a l'utérus artificiel, donc permettre aux femmes de ne pas subir la grossesse. Il y a effectivement
subir, ça peut être un choix aussi, hein.
Ça peut être un choix, mais voilà. Il faut que ça reste un choix, ça c'est clair. Nous, c'est à l'AFT, on dit toujours, faut que ça reste un choix. C'est-à-dire que l'un de nos combats principaux, effectivement, c'est repousser la mort, c'est-à-dire repousser la longévité maximale. Tout à l'heure, on a parlé d'espérance de vie, mais la longévité maximale, c'est différent. C'est-à-dire aller au-delà de 120, 130, 140, etc. C'est-à-dire, c'est surtout supprimer la vieillesse, le vieillissement, que nous, on considère comme une maladie. C'est-à-dire que c'est aussi des frontières de définition. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous dites que la médecine se borne à mourir en bonne santé. Mais pour nous, mourir en bonne santé, ça n'existe pas. C'est-à-dire toujours une maladie derrière. Et notre but, c'est de supprimer la vieillesse qu'on considère comme une maladie, qu'on considère non souhaitable. Mais il faut avoir le choix. C'est-à-dire que si on veut se tuer en pleine santé à 100 ans, que ce soit possible.
Judith Nicogossian, vous qui êtes également sociolinguiste, la vieillesse peut être considérée comme une maladie?
Alors c'est vrai que c'est très paradoxal, le changement de paradigme des définitions du vivant, de la vie et de la mort, où aujourd'hui un médecin signant un acte de décès ne remplit plus jamais la cause du décès par mort naturelle ou de vieillesse naturelle, mais toujours donne une justification pathologique du décès en question. C'est vrai qu'on arrive dans un temps où le trop prometteur de la technologie devient le corrélat de l'identité, et que ces technologies et ce progrès technologique possèdent pour singularité de modifier la biologie du corps de l'homme, et de trois façons, donc qui est rappelant Harari, hein, et son Sapiens de 2017.
Alors la première façon... Juste pour situer, Harari, c'est un historien israélien qui a écrit un best-seller, en effet, qui s'appelle Sapiens, et qui retrace l'histoire de l'humanité.
Voilà, et qui la première façon, c'est l'interaction homme-machine aux technologies, l'hybridation, avec la possibilité de la prothèse ou des interfaces cerveau-machine ou des microcomposants électroniques. La deuxième possibilité, c'est celle de la génétique, donc la réingénierie génétique, et là avec l'utérus artificiel serait complémentaire vis-à-vis de cette possibilité de réingénierie génétique là, où l'utérus artificiel parachèverait de dissocier la sexualité et la reproduction, qui sont quand même des signes intrinsèques, des propriétés intrinsèques de notre espèce. Et le dernier niveau, ce serait celui désincarné ou incarné de l'intelligence artificielle, donc désincarné par tout ce qui est chatbot, agent conversationnel, et en l'incarnant sur des modèles robotiques androïdes qui ressembleraient ou non à la morphologie de notre espèce.
Mais c'est vrai qu'on peut se poser la question, Alain Froment, qu'est-ce que serait un homme qui ne serait pas destiné à mourir? Est-ce qu'il serait encore un homme, finalement?
C'est le problème de l'augmentation de l'homme, en quelque sorte. Alors, cette augmentation, elle commence avec les lunettes que je porte, hein, toutes ces prothèses qui étaient évoquées par Eric. Et bien sûr, on peut lutter contre la dégradation. Pour la médecine, la vieillesse n'est pas une maladie, mais c'est simplement une usure physiologique qui se fait au niveau moléculaire, au niveau cellulaire, à tous les niveaux. Donc, on peut imaginer qu'il y a des limites à cela et que les progrès, alors dans 1000 ans, dans 10 000 ans de la physiologie, permettent de reculer ces limites. Toujours est-il qu'elles sont là. Et pour moi, l'immortalité, c'est juste une imposture.
Pourquoi ?
Parce que déjà, dans l'évolution, en tout cas darwinienne, il est prévu que les individus se succèdent, donnent naissance, disparaissent. Et si on quitte cette évolution darwinienne, alors évidemment, moi je me place en biologiste, l'évolution biologique, elle est lente, elle est continue, elle est visible, hein. Il y a quand même tous les jours des mutations génétiques qui peuvent être retenues comme avantageuses chez nous, mais elle est maintenant complètement dépassée par l'évolution culturelle qui, elle, va de plus en plus vite. Et cette évolution culturelle, effectivement, elle nous promet un avenir enchanteur, mais dans les faits, d'abord, elle est complètement imprévisible, et deuxièmement, si elle consiste à augmenter certains hommes en leur greffant quelque chose, par une espèce de geste chirurgical, il est difficile de penser que ça affecte impactera les 7 ou 8 milliards d'humains. Et donc, effectivement, comme le disait un des auditeurs, le risque est d'avantager un certain nombre, une élite qui va se trouver dotée de capacités supérieures et qui, bien sûr, réduira en esclavage ceux qui ne seront pas dotés de cette augmentation.
Emmanuel Pérégovin, ce sera une humanité à deux vitesses ?
Oui, oui, mais ça, c'est un problème politique qui est un problème qui est avec toutes les technologies.
Un problème économique.
Aujourd'hui,
aussi.
En France, il y a une différence d'espérance de vie entre les ouvriers et les cadres de 7 ans. C'est énorme. Il faut s'attaquer à ça. Nous, on est à l'AFT, on est vraiment sur un principe de démocratiser au maximum. Et pour la longévité, je pense pas que ce soit quelque chose de très coûteux. C'est probablement une sorte de vaccin ou de traitement. C'est pas ça le problème. Après, on parle de prothèses, effectivement, ça, je sais pas trop, mais ça va avec toute technologie. Et nous, évidemment, il faut que ça soit accompagné d'un progrès social. Mais aussi, il faut voir une chose, c'est que la technologie peut accompagner et favoriser l'égalité. C'est-à-dire, si on est en meilleure santé, ben voilà, on est aussi plus à même disons que les inégalités économiques conditionnent aussi beaucoup le rapport à la technologie et l'acceptabilité des technologies.
C'est la possibilité d'y avoir accès ou non.
Voilà.
Et jusqu'à présent, pour y avoir accès, il faut les moyens.
Oui, bien sûr. Et ça, c'est. Mais ça, c'est un peu des scénarios de science-fiction, humanité à deux vitesses. Ça existe déjà. Il faut s'y attaquer maintenant. Il n'y a pas besoin d'attendre. Que ça arrive.
100 ans. Sur franceinter.fr, ces messages qui nous arrivent. Norbert nous dit « Je pense qu'il serait bon d'augmenter la répartition des richesses et des droits humains en général, plutôt que d'utiliser, on en parlait à l'instant, des ressources incroyables pour augmenter quelques privilégiés. » Un auditeur qui nous dit « L'homme de demain sera pareil, mais en plus con. Je ne me fais aucune illusion sur son avenir. » Nicole qui s'interroge « Y aura-t-il un homme du futur ? Quelle est la capacité de l'homme à s'adapter au réchauffement de la planète qui s'accélère ?» Et puis un autre auditeur qui nous dit de manière assez énervée, je pense, c'est hallucinant de voir encore des gens qui se gargarisent d'hommes augmentés en faisant complètement fi de la dégradation accélérée actuelle de notre environnement. Réveillez-vous, mettez le nez dehors, sortez de votre torpeur, nous dit cet auditeur. Nous sommes plutôt bien partis pour l'homme diminué, Judith Nicogossian. Judith Nicogossian, vous êtes avec nous ? Ah, vous vouliez intervenir. Est-ce que, bon, quand on aura retrouvé la ligne, faites-moi signe en régie si nous avons retrouvé Judith Nicogossian, merci. Alain Froment, est-ce qu'il est déjà arrivé dans l'histoire de l'humanité que l'homme régresse, puisque depuis le début de cette émission, nous ne parlons que de progrès ?
Ça me rappelle une bande dessinée de Reiser qui s'appelait « Et le singe devint con ». En fait, non. L'humanité se caractérise par un gros cerveau qui fabrique des idées, qui fabriquent donc des prothèses, qui est de plus en plus intelligent, qui s'auto-améliore. Donc je pense que on a gagné en intelligence, d'autant que maintenant, tous les cerveaux de la planète peuvent être interconnectés via les technologies informatisées. Et donc n'importe quel individu peut maintenant hériter de l'ensemble de la connaissance de l'humanité. C'est un progrès inouï. Donc ce qu'il faut voir, c'est que nous sommes extrêmement adaptables, à la fois sur le plan biologique, puisqu'au départ, nous sommes une créature tropicale, hein, donc la chaleur ne nous fait pas forcément peur, mais surtout sur le plan culturel. C'est pour ça qu'on peut, par exemple, aller coloniser la Lune ou coloniser Mars. C'est-à-dire créer un environnement complètement artificiel. Parce que notre cerveau est capable de ça.
Mais est-ce que l'homme peut s'adapter au réchauffement climatique à venir inéluctable?
Bien sûr. L'homme, par définition, est adaptable.
Judith Nicogossian, vous êtes revenue. Les lignes téléphoniques nous ont permis de revenir. Ou alors les satellites, je ne sais pas comment vous êtes avec nous. Mais en tout cas, vous êtes avec nous.
Oui, voilà. C'est vrai qu'il y a, il y a plusieurs scénarios en fait de prospection, et je suis tout à fait d'accord avec ce qui est dit. Déjà, sur le plan du transhumanisme, il existe plusieurs courants transhumanistes, des transhumanistes dont l'idéologie est très radicale en fait, d'amélioration et d'augmentation des performances et des qualités du corps humain, qui l'opposerait à ceux dont les corps n'auraient pas été améliorés. Et dans ce cas, ça pose trois questions, bien sûr, trois questions fondamentales. La première, c'est celle de l'adaptabilité aux technologies. La deuxième, c'est celle de l'accès aux technologies, qui est une question sociale, qui est une question éthique, qui pose des enjeux éthiques et de société. Et également, la dernière, qui pose aussi une question d'enjeu de société, c'est celle d'une éducation aux technologies, parce que on se rend compte qu'il ne suffit pas d'y accéder, mais il s'agit aussi d'y être éduqué. Parce que les mésusages peuvent arriver à un constat contraire, hein, c'est-à-dire au lieu d'accompagner une évolution et une amélioration de certaines performances, un nouveau confort de vie, une sensation de bien-être, un épanouissement vis-à-vis de l'usage de ces technologies. Parfois, si l'on n'est pas éduqué à ces technologies, on peut au contraire intégrer un espèce de processus de désévolution qui sera fait en non-respect de nos besoins à nous et de nos besoins réels en tant qu'humains de l'ordre du vivant, du monde
vivant.
C'est
ce que nous dit sensiblement Agnès, hein, qui nous écrit sur franceinter.fr. Née en 1975, je n'estime pas culturellement suffisamment armée pour prendre position sur la question de l'homme augmenté ou le transhumanisme. Ce qui m'inquiète davantage, c'est que ces questions ne sont pas abordées au cours de la scolarité. Pourtant, ce sont nos enfants qui auront à décider autour de ces questions. Éric Fourneret, vous qui êtes philosophe, c'est vrai que l'importance de l'éducation, de l'information, de la culture est cruciale sur cette thématique.
Absolument, et elle est d'autant plus importante qu'on a tendance à accepter plus facilement les technologies quand on est né après l'apparition des technologies. C'est-à-dire que je fais souvent cette comparaison, moi mes enfants jonglent avec les euros, et moi il m'arrive encore un peu de temps en temps d'essayer de convertir en francs pour vraiment me rendre compte. Mais pour mes enfants, jongler avec les euros, c'est tout à fait facile. Donc les générations qui sont nées après les technologies qui ont émergé, pour eux, c'est la norme. Donc, elles ne les remettront pas en question. Et c'est ça la grande difficulté. Et on a besoin, pour se saisir de cette difficulté-là, qu'il y existe un débat social. Qu'il existe un débat social, non pas avec entre universitaires, mais aussi avec le citoyen. Et malheureusement, c'est que ce débat, il fait outrageusement défaut, alors qu'on en a profondément besoin.
Pourquoi fait-il défaut, selon vous ?
Comment dire, une sorte de méfiance, une méfiance systématique à l'endroit du progrès scientifique. Autrement dit, on a tendance à être très catastrophiste par rapport au progrès, et on croit que si on va aller débattre avec la société, eh ben finalement, on va mettre plein de freins au progrès technologique et au progrès biomédicaux. Donc, pour éviter ce qui est une vision complètement erronée, hein. Quand on discute avec les personnes, on se rend bien compte qu'ils sont pleins de bon sens, ils savent très bien ce qu'ils doivent au bienfait des progrès scientifiques et biomédicaux, etc. Mais en même temps, il est risqué que l'on mette la société à l'écart des orientations du progrès technologique.
Sur franceinter.fr, ces messages qui continuent de nous arriver, Jean nous dit « À quoi bon un homme augmenté si c'est pour vivre sur une planète rétrécie ?» Et Claude, « L'être humain est le seul nuisible sur Terre, vivement qu'il disparaisse. » Midi 47 sur France Inter. Continuez à intervenir sur le site ou sur l'appli. On se pose la question de l'homme de demain aujourd'hui dans le débat de midi. Et nous sommes ensemble jusqu'à 13h.
Make it, do it, makes us harder, better, faster, stronger, more than power, power, never, ever, after, work is over. Work it, make it, do it, makes us harder, better, faster, stronger. Work it harder, make it better, do it faster, makes us stronger.
Les musiciens casqués Daft Punk et ce titre bien dans l'esprit de l'émission Harder, Better, Faster, Stronger, plus dur, meilleur, plus vite, plus fort. Vous retrouvez toute la programmation musicale sur le site de l'émission.
France Inter. Le débat de midi. Thomas Chauvineau.
À quoi ressemblera l'humain de demain? Voilà la question qu'on se pose aujourd'hui dans le débat de midi et ces messages qui continuent de nous arriver sur franceinter.fr. Une auditrice qui nous dit « Quelle horreur entendre parler de délivrer les femmes de leur grossesse ». Je vous l'avais dit, Emmanuel Pérégovin, c'est vous qui avez expliqué tout à l'heure qu'il pouvait y avoir des utérus artificiels. Donc cette auditrice nous dit « Les utérus artificiels, votre invité est déjà un homme du futur, ni cœur, ni humanité, un vrai robot mais sacrément névrosé ». Voilà pour vous Emmanuel Pérégovin, vous êtes habillé pour l'hiver. Un auditeur qui nous dit, et je pense que là, ça s'adresse plutôt au philosophe Éric Fourneret, qui était également avec nous, pour Schopenhauer, demander l'immortalité, c'est vouloir répéter une erreur à l'infini. Et puis pour vous, Alain Froment, anthropologue au Musée de l'Homme, Céline qui nous dit, petite rectification, et le singe devint con, un livre que vous avez cité il y a quelques minutes, et le singe devint con est un livre de François Cavanna et non de Rézère, mais Céline ne vous en veut pas, elle signe amitié. Judith Nicogossian, l'homme de demain pourrait être aussi un homme qui sortira de sa tombe. Vous avez beaucoup réfléchi à la cryogénisation, une pratique qui peut maintenant se faire notamment aux États-Unis et au Canada. Des hommes et des femmes qui se font cryogéniser en espérant pouvoir un jour, tel Hibernatus finalement, ressortir de leur tombe.
C'est effectivement singulier de voir que en France, si en France n'existe que deux modes de sépulture, l'incinération et la crémation, au Canada ou aux États-Unis ou en Angleterre, la cryonie ou cryogénisation est un troisième mode de sépulture autorisé. On propose un programme, donc une cryonisation de corps entier ou de tête, où les gens qui décident d'y recourir, contre c'est assez cher, c'est assez onéreux comme solution, pensent que dans le futur, on sera à même de soigner leur pathologie et ainsi de les réveiller sur un mode un petit peu d'Hibernatus. Mais du coup, si on se projette assez facilement finalement dans cet imaginaire-là d'un réveil possible des limites de notre vivant dans le futur, pour le moment, il n'y a aucun retour scientifique qui peut permettre de l'espérer, si ce n'est comme ça des projections un petit peu imaginaires. Et d'ailleurs, c'est assez intéressant parce que quand on pose la question à un ensemble de personnes, et pour toi alors, comment l'humanité va-t-elle évoluer? On arrive sur deux dispositions. La première, c'est celle de se dire, ah ben non, on va pouvoir faire évoluer cet environnement qui aujourd'hui subit un peu les contraintes du régime qu'on lui impose. On va pouvoir faire évoluer cet environnement sous forme d'une espèce de technonature, où tout va être technoïde et technologisé, sur un mode un petit peu cyberpunk d'un imaginaire de Blade Runner. Ou au contraire, d'autres plus pragmatiques disent non, nous dans des scénarios de fin d'évolution, de fin de notre espèce, disent que non, parce que ce qu'on a imposé à l'environnement, l'environnement va avoir un retour en fait assez important. L'environnement, c'est vrai que ce sont des chiffres qui sont confirmés par les rapports de l'OMS, notamment sur l'accès à l'eau, qui va devenir très problématique de façon imminente pour au moins un quart de la population mondiale, sur l'épuisement des ressources, etc., sur la pollution, sur tous les effets secondaires de nos politiques par exemple, en lien aux antibiotiques. On a développé une antibiorésistance considérable qui devient problématique aussi.
Oui, parce que les antibiotiques fonctionnent du coup de moins en moins. Fonctionnerait en tout cas.
Les antibiotiques fonctionnent de moins en moins, et puis génèrent aussi des maladies iatrogènes, hein, c'est-à-dire propres au traitement que nous avons suivi.
Nous arrivons bientôt à la fin de l'émission. Emmanuel Pérégovin, porte-parole de l'association française transhumaniste, comment vous le voyez-vous, l'homme de demain, s'il fallait le décrire comme ça, en faire un petit croquis rapidement?
Alors si on parle d'un horizon à 2100 ans, je pense pas qu'il y aurait des modifications morphologiques énormes. Évidemment, bon, moi je suis militant anti-vieillissement, donc je pense que le vieillissement étant plastique, on arrivera à régler ce problème si l'État nous aide un peu, par exemple. Mais on n'a pas parlé d'un sujet qui est quand même assez important, qui est l'IA, l'intelligence artificielle. Et vu le progrès exponentiel, il y a quand même quelque chose qui se passe, c'est-à-dire qu'on fait des cerveaux artificiels, et ces cerveaux artificiels pourraient être humains, humanoïdes, voire complètement remplacer des neurones humains par, disons biologiques par des neurones artificiels. Et ça, disons qu'on a du mal à prévoir, c'est-à-dire que c'est quelque chose, à 30, 40 ans, quand on est un spécialiste, ils ont du mal à dire vers où ça va, et ça pourrait aller très très vite.
Mais vous, comment vous le voyez ? Avec un cerveau augmenté ?
Non, pas du tout, mais disons qu'il pourrait y avoir effectivement des gens qui ne sont pas biologiques, je pense, en 2100. Et peut-être même plus que des gens qui sont biologiques.
Alain Froment, anthropologue, je vous vois surpris de cette interpellation d'Emmanuel Pérégovin, des gens qui ne seraient pas biologiques. Comment vous le voyez, vous, l'homme dans 100 ans ?
Dans 100 ans, très ressemblant donc à celui d'aujourd'hui, nous sommes des gens intelligents. Et tant que nous mettons notre intelligence au service de la technologie, nous avançons, nous progressons. Le risque, à mon avis, c'est que cette technologie non seulement devienne trop envahissante, mais qu'elle pénètre notre propre organisme. C'est-à-dire que nous sommes les acteurs de notre propre évolution et nous l'influençons. Et si nous changeons nos gènes, par exemple, ou si nous changeons nos corps avec des puces, avec un certain nombre de dispositifs qu'on n'imagine même pas encore aujourd'hui, à ce moment-là, on quitte la sphère de l'humain et on va vers une autre espèce. Donc, c'est acceptable, éventuellement. C'est un débat politique, c'est un débat éthique, c'est un débat citoyen. Mais là, les limites de l'humain seront franchies.
Éric Fourneret, philosophe, on franchira les limites de l'humain ? C'est ça, l'homme de demain ?
Non, parce que je serais incapable de vous dire, et je mets au défi n'importe quel philosophe de dire quelles sont les limites de l'humain aujourd'hui. C'est très compliqué. Le biologique et enfin le naturel et l'artificiel sont tellement entremêlés dans nos vies que c'est extrêmement difficile de faire une frontière aussi étanche. En revanche, ce qui est très intéressant, c'est de relever que le transhumanisme repose énormément sur des entreprises privées, ce qu'on appelle donc des start-up, et que ce qui leur permet de vivre, c'est les bénéfices économiques. Autrement dit, vous avez d'un côté des effets d'annonce assez extraordinaires qui ont peu de chances d'aboutir, mais qui permettent justement à ces startups de vivre parce qu'elles sont mises en bourse, etc. Mais les projets sont assez peu réalistes en réalité. La réflexion éthique doit se concentrer, elle, sur l'imagination réaliste, c'est-à-dire elle doit être inscrite dans les laboratoires où sont développées les recherches, et non pas se focaliser sur ces scénarios science-fictionnels qui n'auront quasiment aucune chance d'arriver. Donc, autrement dit, je pose la question autrement, je conclurai là-dessus.
Un philosophe qui termine en posant une question, c'est ça, hein ?
Oui, c'est ça.
Vous nous la faites à l'envers.
Si le transhumanisme n'était pas aussi rentable économiquement, si l'humanité n'était pas aussi rentable économiquement, est-ce que les transhumanistes voudraient être encore immortels ?
Eh bien, écoutez, vous avez 4 heures et n'oubliez pas la marge de deux carreaux. Merci beaucoup à tous les quatre d'avoir été en direct avec nous dans ce débat de midi, et merci à vous de nous avoir suivis. Le débat continue sur le répondeur de France Inter. Vous le savez, 01 56 40 68 68. On se retrouve demain avec cette question. Les trains de nuit doivent-ils à nouveau circuler ? On attend déjà vos réactions sur le site et l'appli de France Inter. À la technique, aujourd'hui, c'était Alexandre Chénet, et bonne journée à vous tous, à l'écoute évidemment de France Inter.